savons ce qui se cache derrière cette petite phrase que nous prononçons de nombreuses fois dans une journée. Quelle heure est-il ?
Au quatrième top, il sera exactement...
midi et des poussières. Midi et des poussières.
Un rendez-vous presque quotidien sur Radio Barthas.
Des invités, des reportages, des chroniques, de la musique. Une heure d'émission pour raconter ce qu'il se passe ici et un peu plus loin.
Midi et des poussières.
En réalité, pour être tout à fait précis, actuellement c'est le temps atomique, moins 10 secondes, plus une heure.
Et bonjour à toutes et à tous, il est très exactement midi et des poussières dans le sud de la Lozère, l'heure de faire entendre sur le 107 de la bande FM et sur radiobarthas.net les voix, initiatives, événements qui agitent les environs. Et il sera beaucoup question de voix tout à l'heure, de grandes voix même, qui résonneront lors de la 23e édition du festival Détour du Monde qui arrive très bientôt. On sera avec Fabien Moutet, directeur du festival, pour en parler. On ira ensuite voir ce qu'il se passe du côté du Mont Lozère qui s'apprête à accueillir pas moins de 2500 brebis ce dimanche. C'est la transhumance et ça se fête. On en parlera avec Julie Hébrard de l'entente interdépartementale Causse et Cévennes et avec Thierry Ferrier, président de l'association Transhumance au Mont-Lozère. Mais d'abord, en direct et en studio, avec moi ce midi, Fred Régnier, bonjour.
Bonjour.
Alors Fred, tu es documentaliste à l'Institut Agro Campus de Florac et tu es là pour nous parler des journées d'études et pratiques interprofessionnelles qui se tiendront du 30 juin au 2 juillet sur le campus de Florac. Et ces journées, elles ont été intitulées d'une belle façon, c'est cultiver nos liens aux vivants dans les territoires, questionner et mettre en dialogue nos pratiques. Alors qu'est-ce que c'est que ces journées ?
Alors, ces journées, elles partent, d'abord, elles partent évidemment de nos missions à l'Institut Agro de Florac, qui sont de former, d'accompagner l'enseignement agricole technique, spécifiquement en ce moment sur les transitions agroécologiques. Et le constat qui est fait un peu par beaucoup de gens, c'est qu'on a évidemment besoin de modifier les trajectoires sur lesquelles on est actuellement. Ça fait longtemps qu'on le sait. On a beaucoup d'informations scientifiques, de constats, de consensus qui nous disent ça. Et cependant, on voit bien que dans les politiques, qu'elles soient territoriales, nationales, dans les formations, c'est encore difficile. Et dans les métiers aussi, c'est difficile d'intégrer éventuellement ces changements de trajectoire qui impliquent aussi des changements de représentation mentale par rapport au monde. Alors, on a pensé... en profitant un peu de la profusion d'écrits qui sont réalisés en ce moment par ce qu'on appelle les penseurs du vivant, les penseurs, les penseuses du vivant, qui sont des philosophes, des anthropologues, des chercheuses, des chercheurs, que ce serait bien d'avoir des journées dédiées à la question des relations qu'on a au vivant. Parce que cette question d'interdépendance qu'on a au vivant et qui a notamment été mise par un chercheur, un anthropologue, Charles Stepanov, qui nous a beaucoup inspiré pour commencer ces journées à réfléchir sur ce programme, c'est qu'en fait, on a des sociétés qui ont des liens plus ou moins denses, plus ou moins diffus au vivant et qu'en fonction de cette densité de liens, on a une prise en compte plus ou moins importante de la valeur écologique, de la fragilité des écosystèmes, de l'habitabilité de la Terre, en tout cas des territoires sur lesquels on vit chacun, et que ce sont des questions qui sont difficiles à traiter dans les milieux professionnels. Mmh. D'une part parce que il n'y a pas de formation actuellement sur ces questions-là.
Mais quand on parle de milieux professionnels, on parle de milieux qui déjà interagissent avec le vivant de par leur corps de métier ou en tout cas leur secteur d'activité.
Oui, on va dire que ce sont tous les métiers qui ont trait à l'agriculture, mais aussi à l'aménagement du territoire. Mais ça s'adresse aussi aux politiques territoriales, à l'éducation à l'environnement, à l'enseignement agricole, au métier de l'accompagnement de l'agriculture, Donc il y a énormément de métiers en fait qui sont en lien et qui peut-être auraient intérêt à partager entre eux
des concepts
et puis la potentialité de ce travail sur une relation, alors je vais préciser un peu, une relation qui va être sensible au vivant. Et cette relation sensible, ben, pour l'instant, on peut faire le constat qu'elle est invisibilisée, voire délégitimée. Et quand elle existe, ben, elle peut être source de conflits. En tout cas, nous, on le constate dans les formations agricoles, puisque maintenant, on accueille des publics qui sont issus soit du milieu agricole, soit pas du milieu agricole. On a des types de formations qui sont différentes dans l'enseignement agricole.
À l'Institut Agro, notamment.
À l'Institut Agro, pas spécifiquement, mais ça, le cas peut se présenter aussi. Et donc, on a des sujets pour lesquels, quand on parle de soi, de son rapport au vivant, de ses relations, quand on convoque l'intime, on peut se sentir pas forcément à l'aise. Et entre une éthique personnelle qu'on peut avoir et des injonctions du milieu professionnel, il peut y avoir plus que des couacs, il peut y avoir des tensions.
Est-ce que tu pourrais nous donner peut-être quelques exemples où justement ces questions-là, ces liens vivants ont tendance à être invisibilisés ou non pris en compte?
Alors, invisibilisés, une manière d'invisibiliser ces choses-là, c'est de mettre un focus sur les chiffres, les faits, les données. Mais de plus partir de l'expérience des gens, de l'expérience de vie des gens, qui est tout aussi légitime. On n'est pas dans le domaine de la science dans ces cas-là, mais pour autant, ce sont des choses qui sont fondamentales quand on veut construire une politique sur un territoire, et notamment une communauté politique qui soit capable de dialoguer entre elles,
Ce serait par exemple privilégier le bien-être au travail plutôt que le rendement? Quelque chose comme ça
Alors, c'est faire une alliance à chaque fois. Ce sont des situations complexes, donc ça mêle à chaque fois différents aspects. Et oublier un des aspects ne rend pas service, en tout cas au métier, au sens qu'on lui donne. Et prendre en compte cette relation, la relégitimer, être en capacité, parce qu'on a des outils, de pouvoir exprimer, partager, dialoguer autour de cette sensibilité au vivant, ça permet de redonner du sens aussi à son travail, de le vivre pleinement.
Et l'idée, c'est aussi donc de croiser les regards et les travaux, que ce soit pluridisciplinaire. Ces journées, elles s'adressent à différents professionnels. Donc, il y a aussi cette ambition que chacun puisse partager et échanger en fonction de déjà ses propres pratiques et connaissance de ces liens avec le vivant.
Voilà, donc on va profiter, donc comme tu l'as dit, ce sont des journées interprofessionnelles, donc on a différents domaines professionnels, je l'ai dit, l'éducation, l'environnement, la politique territoriale, l'aménagement du territoire, le milieu agricole, les milieux de la formation. Et en fait, on va profiter du croisement de ces praticiens avec des propositions qui seront amenées par des chercheurs et chercheuses à travers des ateliers, mais aussi à travers la conférence. On en reparlera tout à l'heure de la conférence, pour expérimenter des approches, des pratiques, alors au travers du récit, au travers du film, du théâtre forum, du théâtre d'image, des pratiques artistiques, pour amener un public à pouvoir réaliser c'est quoi le lien au vivant, c'est quoi cette diversité de représentation du monde, cette diversité de lien au vivant, en quoi elle nous enrichit, en quoi c'est intéressant de respecter cette diversité et de pouvoir la faire dialoguer dans une communauté soit d'apprentissage ou une communauté politique, en tout cas une communauté qui partage un territoire.
Et donc, s'inspirer aussi des travaux des chercheurs qui seront présents, tu l'évoquais. Donc, il y aura quatre chercheurs qui seront intervenants et qui animeront les ateliers. Et parmi ces quatre personnes, il y aura donc Sophie Gosselin, une philosophe. Et elle sera aussi présente pour partager ses pensées lors d'une conférence grand public qui aura lieu donc le mardi 30 juin à 20h. Donc les journées sont à destination des professionnels, mais cette conférence-là, elle sera ouverte à toutes et à tous dans l'amphi de l'Institut Agro. Et donc Sophie Gosselin, est-ce que tu peux nous présenter un peu son travail, sa pensée ?
Oui, alors Sophie Gosselin, donc elle est philosophe, elle est chercheuse et enseignante à l'Université de Tours et à l'EHESS de Paris. Elle est notamment, je pense que c'est intéressant pour les auditeurs, fondatrice de la revue en ligne Terrestre. Donc c'est une revue qui est en accès libre et qui traite des questions en lien, qui font le lien en tout cas entre l'écologie et le social. Et puis elle est l'autrice d'un livre avec son compagnon David G. Bartoli, d'un livre qui s'appelle « La condition terrestre, habiter la Terre en commun ». Alors c'est un des livres qu'elle a écrit. Et ce livre, en fait, pose la question de la validité actuelle de nos institutions politiques pour faire communauté avec l'ensemble du vivant sur un territoire. Donc pour ça, c'est une approche qui est au croisement de la philosophie, de la politique, de l'anthropologie, de l'économie. Et du droit aussi, ce qui est intéressant.
Oui, par exemple, elle a beaucoup travaillé sur le Parlement de Loire.
Oui, le Parlement de Loire, donc c'est une expérience qui se mène en France hein, suite à la création d'une personnalité juridique d'un fleuve en Nouvelle-Zélande. Donc il y a eu cette initiative qui a débuté en France en 2019. Et c'est comment faire place à une nouvelle forme de communauté qui prenne à la fois compte des vivants, mais de l'ensemble des vivants, donc c'est-à-dire ceux qui n'ont pas la parole. C'est difficile de les inclure dans nos institutions, mais aussi des éléments du vivant, comme une rivière qui, elle, n'est pas vivante en elle-même, pour respecter, encore une fois, les conditions de vie et d'habitabilité sur Terre. Et donc, la question, c'est comment est-ce qu'on peut inventer de nouvelles institutions politiques avec des gens qui n'ont pas la parole. Donc, c'est très riche comme question. Oui. Ceci dit, sa conférence à elle, on va tous la découvrir parce que son sujet, c'est autour des transformations intérieures et collectives. Et notamment, elle part de l'expérience d'un agriculteur qui s'appelle Thierry Geffray et de sa rencontre avec une meute de loups. Et en quoi cette rencontre a créé une métamorphose personnelle ou collective. Et donc, in fine, une transformation peut-être des manières d'habiter qu'il y a derrière.
Ça, c'est intéressant aussi sur notre territoire où le loup fait beaucoup parler et pose beaucoup de questions chez notamment les éleveurs qui sont pour le coup très en lien avec le vivant, voilà, au sens large. Donc, ce sera intéressant comme sujet de conférence pour faire ça en Cévennes et sur les côtes. Donc, Sophie Gosselin, donc ça sera mardi 30 juin à 20h. Et il faut s'inscrire à l'avance, hein, parce qu'il y a des places limitées.
Alors, c'est mieux, il y a un nombre de places limitées. Ça se déroule dans l'amphithéâtre de l'Institut Agro, sur le campus de Florac. Donc, c'est toujours mieux pour nous de savoir combien de personnes seront là, qu'on puisse prévoir l'organisation.
Et donc, il y a un lien sur lequel on peut s'inscrire. Je le mettrai sur la page internet de l'émission, mais je peux le donner ici. Donc, c'est fermewiki@agro.fr/lien-au-vivant. Et là, il y a justement tout le programme de ces journées et aussi le formulaire pour s'inscrire à la conférence. Et donc ensuite, le lendemain, donc le 1er juillet, ce sera le jour dédié aux rencontres interprofessionnelles avec les trois autres intervenants. Est-ce que tu peux peut-être pas nous les présenter autant en détail que Sophie Gosselin, mais nous les...
Alors, on a deux chercheurs du CIRAD, donc Nicolas Guédet-Trapier, qui lui a travaillé sur le lac du Salagou. Non, alors ça, c'est François Bousquet, je confonds. François Bousquet, voilà, qui a travaillé sur le lac du Salagou et qui, lui, a une approche à partir du théâtre d'images. Donc, lui, il animera un atelier. Nicolas Guédet-Trapier, lui, travaille sur à partir d'un dispositif filmique qui capte des images dans des lieux où a priori on pense qu'il n'y a que des humains qui passent, qui ont des activités, mais en fait on découvre qu'il y a énormément d'autres acteurs qui sont des acteurs du vivant qui passent, et en quoi ce le voir nous touche, provoque des émotions et est support de dialogue pour discuter du partage d'un endroit, d'une place. Diane Trouillet, elle travaille, elle fait le lien entre la science, l'art et la technique, et elle va travailler à partir de produits lactofermentés et de produits récupérés autour de nous, sur le territoire, pour être en capacité de représenter les flores microbactériennes qui sont invisibles. Et puis Alban de la compagnie Mycelium, alors je suis désolé, j'ai oublié son nom de famille, en fait elle travaille à partir du récit. Donc elle était venue faire une résidence d'une semaine ici autour de la question de la chasse. Et au cours de cette journée, donc non seulement elle animera un atelier, mais elle présentera aussi, elle fera la restitution de son travail d'enquête autour des visions de la chasse. Voilà pour la journée en tout cas. Après, au niveau donc de la partie scientifique, on aura Nicole Pignet qui est enseignante-chercheuse sur l'éco-sémiotique. Ne me demandez pas ce que c'est, j'ai pas eu le temps de creuser. Et puis bien sûr Sophie Gosselin. Et ça, ce sera pour la journée, donc réservée aux professionnels. Et le lendemain, le 2 juillet, là pour le coup, c'est une journée qui est dédiée à l'enseignement agricole. Où on va proposer aux enseignants de toute discipline d'effectuer un diagnostic sensible de l'exploitation agricole. Donc c'est une approche qui n'existe pas encore vraiment, qui est expérimentale. Donc ces deux journées sont en fait expérimentales et elles ont pour objectif de commencer à construire, partager, d'avoir des retours sur des approches pour travailler le sensible.
Cultiver nos liens au vivant dans les territoires, questionner et mettre en dialogue nos pratiques. Voilà l'intitulé donc de ces journées dédiées au vivant à l'Institut Agro. Merci beaucoup Fered Régnier d'être venu nous les présenter.
Bonne journée.
Bonne journée. Et tout de suite sur Radio Bartas, on fait un petit détour de par le monde.
Du 11 au 18 juillet, le festival Détour du Monde fait résonner les voix et les échos du monde entre Aubrac et Gorge du Tarn. Retrouvez Blic Bassi à Séverac d'Aveyron, Décolaz à Espalion, Selim Trio à Javol, Sian Potok à Marchastel et Nuit Noire au Boisset. Puis retrouvez-nous à Chanac les 17 et 18 juillet avec Fatoumata Diawara, Maya Kamachi, Barout, Tarakna et Las Panteras. Et un hommage exceptionnel à Rachid Taha avec le Couscous Clan. Toutes les informations et réservations sur détourdumonde.org.
Et salut Fabien.
Salut.
Fabien Moutet, toi tu es le directeur de l'association Détour du Monde. Le festival il va se déployer entre Aubrac et Gorge du Tarn du 11 au 18 juillet. C'est la 23e édition. Est-ce que tu as vécu les 22 précédentes, toi?
Tout à fait. Ouais. Alors j'ai vécu les 22, des fois pas forcément de l'intérieur, puisqu'il y a eu une partie où moi je travaillais à côté, donc je l'ai vécu en spectateur simplement, ou en tout cas en soutien des équipes en place. Mais j'ai même fait toutes les éditions du festival, ouais.
Est-ce que tu as un meilleur souvenir, un meilleur concert?
Ouais, j'en ai plein même. Ben justement, Rachida, notamment Rachida, quand il était venu à Détour du Monde, ça reste un grand moment. Je pense aussi au concert de Idir, qui était un moment magnifique. Oh, il y en a eu Eliades Ochoa. Enfin, on pourrait en citer vraiment beaucoup. Ben c'est bien, ça veut dire qu'en tout cas, il s'est passé des choses magiques sur cette scène et j'espère qu'il y en aura aussi cette année.
Et alors, comment est-ce que tu pourrais présenter le festival aujourd'hui à quelqu'un comme moi qui n'y est encore jamais allé?
Ben, c'est un festival, Détour du Monde, c'est un festival, c'est la 23e édition, c'est un festival de territoire maintenant qui voyage. Donc on attaque le 11 juillet à Sèvrac, on finit sur notre week-end cœur de festival à Chanac. Et au milieu, il se passe plein de choses. C'est, on visite, on va dans des villages, on essaye de proposer des concerts dans des lieux patrimoniaux, des paysages. Et évidemment, c'est un festival de musique du monde surtout. Et c'est surtout ça qu'il faut noter. Donc, musique du monde dans le sens assez large, c'est-à-dire qu'on va vraiment essayer de trouver, de présenter des artistes qui vont venir mêler à la musique contemporaine des musiques racines qui ont fait leur histoire. Et c'est comme ça qu'on arrive à des créations assez géniales, des artistes musicalement assez fous, et qu'on découvre les nouvelles cultures à travers la musique sur l'ensemble du festival.
Musique du monde, justement, je voulais parler de ce terme parce que parfois il fait un peu débat parce qu'il est, il est tellement large en fait, et donc on peut aussi y voir un peu une catégorie fourre-tout presque occidentalo-centrée parce que du coup c'est le monde autour de nous ici en Occident. Bon, là t'en as donné une bonne définition, mais toi, comment, pourquoi ce terme encore aujourd'hui est-il pertinent selon toi?
Il reste pertinent à mon sens dans le sens où les artistes ne peuvent pas se définir comme artistes de musique du monde, ça ne veut rien dire. Et la musique, les musiques du monde, c'est pas une esthétique, c'est un genre, c'est tout ça. On peut parler de festival musique du monde parce que justement on a une ouverture sur plusieurs esthétiques, mais je pense pas qu'un artiste puisse revendiquer musique du monde. Il peut se revendiquer citoyen du monde s'il veut. Enfin voilà, mais en tout cas les musiques du monde, ça reste un sens large mais utile malgré tout à des festivals comme nous et encore plus en territoire rural, parce qu'on va venir toucher le sens politique de la musique en parlant de musique du monde. On va et de plus en plus actuellement, c'est vrai que dans notre société qui évolue avec les crises qui est actuellement géopolitique, on peut parler de repli sociétal, de repli identitaire même, hélas parfois. Et c'est important justement de garder cette notion de musique du monde, d'amener d'autres cultures. Et à travers cette définition de musique du monde, on va donner un maximum d'ouverture en fait à ce qu'on présente. Donc malgré tout, ça reste musique du monde pour moi est encore une définition politique dont il ne faut pas forcément avoir peur, même si j'entends complètement ce débat. Justement, tu parlais d'autocentrage, tout ça. Et il faut l'écouter aussi. On parle de plus en plus maintenant de musique globale. Quand on parle de musique du monde, pourquoi pas aussi enfin voilà, je pense que ça reste une définition, ça reste des mots, une catégorie. Moi, je suis pas forcément pour non plus qu'on catégorise les choses, qu'on mette des festivals dans des cases, qu'on mette des artistes dans des cases. Je pense que les artistes, ils ont des choses à dire tout simplement à travers leur musique, à travers leur parcours, à travers ce qu'ils portent, et c'est déjà beaucoup, donc on n'est peut-être pas obligé non plus de catégoriser au final.
23e édition, est-ce que le festival il a beaucoup évolué depuis ses débuts, tu dirais? Changé, évolué, j'aime pas trop ce mot finalement, changé en tout cas.
Est-ce qu'il a beaucoup changé? Oui, il a beaucoup changé. Je pense que c'est une de nos forces aussi, c'est qu'on chaque année en fait on se remet en question, on remet en question ce qu'on propose, le format de notre festival. On cherche toujours le modèle économique parfait aussi. C'est un peu tout ce mélange qui fait que le festival change souvent. Il est en mouvement tout le temps. Maintenant, en ce moment, il est beaucoup plus, justement, ce que je disais, sur le territoire. On essaye de le faire rayonner un peu plus. En fait, tout dépend de l'équipe qu'il y a, tout dépend de l'évolution qu'il va y avoir, du modèle économique. J'en parlais, il y a eu l'avant et l'après-Covid. L'après-Covid a fait très mal au festival de nos tailles, enfin, de ce genre. Ouais. Et vraiment, on est toujours à la recherche d'un bon modèle économique. On sait que on est tous impactés par les baisses de subventions aussi. Donc tout ça, en fait, fait que le festival, on va toujours essayer de l'améliorer, de rester dans un modèle économique viable et d'avoir une vision à moyen terme. Et il évolue aussi tout simplement parce qu'on en a envie, parce que c'est important de le faire évoluer, de le faire grandir aussi. 23 éditions, donc on est sur un festival adulte qui commence à être bien majeur, et c'est important aussi de garder ça en tête, c'est que on peut pas s'arrêter sur un format et dire mais maintenant on va plus faire que ça. On va toujours réfléchir à qu'est-ce qu'on va pouvoir amener de plus, qu'est-ce qu'on va pouvoir changer, et voilà. Donc heureusement, les festivals changent, évoluent. C'est ce qui fait qu'ils sont encore là.
Donc, il y a le cœur du festival qui est à Chanac pendant le week-end du 17-18
juillet.
Voilà, mais avant ça, Détour du Monde fait des détours un peu partout.
Oui, maintenant, le festival dure une semaine. On ouvre cette nouvelle édition dans la cour du château de Sévrac d'Aveyron, donc on fait des incursions aussi en Aveyron. C'est la troisième année d'affilée qu'on fait ça. L'année dernière, on avait reçu André Manoukian. Cette année, on a le grand plaisir d'accueillir Blik Bassi pour l'ouverture. Et chaque année, on essaye d'amener aussi quelque chose en plus. Parce que dans cette itinérance, on ne va pas simplement chercher à proposer des concerts. On va essayer de proposer des temps. Nous, on aime prendre le temps à des tours du monde. Et ces étapes sont l'occasion de prendre ce temps. Donc, on va retrouver sur pratiquement toutes les étapes 2 heures d'atelier de création autour du tissage. Qui va être un peu notre fil rouge de cette édition, où on retrouvera la création finale qui aura été faite par plusieurs publics du territoire à la fin à Chanac. On va retrouver aussi les détours de Selim. Donc Selim, c'est l'artiste qu'on accueille le 13 juillet dans la cour du musée archéologique de Javol et qui sera avec nous dès le samedi 11 également le dimanche 12 à Espalion. Pour des temps musicaux intimistes. Donc c'est prendre ce temps-là, l'artiste de lui proposer, il a joué le jeu et c'est génial, de venir, en fait, de prendre une heure pour discuter avec le public, jouer sa musique, se faire découvrir son univers, et on le retrouve 3 jours plus tard pour son concert en trio. Attention, évidemment, il ne va pas jouer pendant 3 jours les mêmes musiques, c'est vraiment, il a construit quelque chose, un peu une aventure qu'on va suivre pendant 3 jours. Alors, donc voilà, on sera aussi à Espalion, qui est une nouvelle étape cette année du festival, avec De Colas, un trio qu'on avait rencontré, nous, à Ausson l'année dernière, en fait, dans la carte blanche qu'on avait fait à René Lacaille pour ses 70 ans. On retrouve notamment Marco Lacaille, qui est le fils de René aux percussions. On retrouve Camille Haim aussi à la harpe. Ça va être un peu un bal créole, on va dire. Généralement, les concerts de De Colas, on commence debout, assis, et on finit debout en train de danser. Après, Javol, je l'ai dit, on retrouvera aussi Sian Potok à Marchastel, à l'église de Marchastel, qui est une étape maintenant pour nous historique, puisqu'on s'y arrête tous les ans. C'est toujours des lieux, c'est souvent complet. J'invite souvent le public justement à réserver très vite parce qu'il y a très peu de place. Et après, on sera le mercredi 15 juillet au domaine départemental de Boissé, justement, avec une création un peu qui sort des sentiers battus, Nuit Noire, qui est un concert dessiné.
Ah oui, j'ai vu ça, ça a l'air magnifique.
C'est magnifique, on en ressort touché.
Ouais, il y a un dessin en fait qui se crée en direct où le dessinateur est sur une tablette numérique qui est projetée sur un écran et il y a ensuite du texte déclamé, de la musique, ça a l'air magnifique.
C'est magnifique et c'était un petit clin d'œil sur le fait qu'au domaine départemental de Boissé, pour nous ça a toujours été un peu le lieu sous les étoiles et c'est un peu ce rapprochement qu'on peut faire entre ce spectacle qui est l'histoire d'un navigateur un peu qu'on va découvrir à travers les dessins et la musique et les étoiles des Boissés. Ça va être magnifique.
Et donc après, on arrive à Chanac City pour le cœur du festival. Et là, il y a beaucoup de voix féminines qui ont été programmées cette année, entre Poplité qui propose des chants du Brésil, Tarakna, c'est de la poésie des femmes kabyles, évidemment la grande Fatoumata Diawara, grande voix malienne, et Maya Kamati qui, elle, chante le Maloya. Donc ouais, beaucoup de voix féminines.
Beaucoup de voix féminines et à la fois... on n'a pas forcément fait exprès et à la fois faut pas s'en étonner, c'est normal en fait, et c'est des artistes de grande qualité, elles sont féminines, elles ont toute leur place à des tours du monde dans tous les cas, et c'est très chouette, c'est une très belle programmation. Moi, je suis très content d'accueillir ces personnes là effectivement, Fatoumata Diawara qui sort d'une grosse tournée à Ekem sur la Montmalie, qui vient nous présenter son nouvel album, Maya Kamati qui fait partie des coups de cœur de l'association aussi. Mais plein, vraiment, j'invite vraiment le public à aller découvrir l'ensemble de la programmation sur notre site internet et à aller découvrir tout court et à nous rejoindre à Chanac, parce que ça va être vraiment très très bien.
Et il y aura cet hommage à Rachita avec le Couscous Clan, donc c'est Rodolphe Burger, c'était un projet qu'ils avaient ensemble, Rachita et Rodolphe Burger, avant le décès de Rachita, donc Couscous Clan, meilleur nom quand même.
Qui a été créé dans les années 2000, et pour cet hommage, alors il y a très très peu de dates, il faut savoir ça, il y a 2 dates cet été, à Bessang et à des Tours du Monde, et c'est un bel hommage et surtout une grande fête en fait, il faut vraiment voir cet hommage sur une grande fête sur la musique de Rachita. On retrouve ça donc le Couscous Clan, tu l'as dit, c'est la création en fait du groupe avec Rodolphe Burger et Rachita. On retrouve notamment Akim Amadouche dedans, qui est le oudiste qui a suivi toute la carrière de Rachida. Et on retrouve un invité, Sofiane Saïdi, qui est le petit prince du rail 2.0, enfin qui est considéré comme le petit prince du rail 2.0. Et c'est marrant parce que Sofiane Saïdi, l'histoire dit, en tout cas l'histoire, je ne confirmerai pas, mais qu'en fait, quand Rachida voulait écouter du vrai rail, il allait au concert de Sofiane Saïdi. On retrouve Yousra Mansour aussi, qui a été une des plus belles rencontres aussi qu'elle a eu avec Rachida. Ou encore Justin Adams, qui avait produit l'avant-dernier album de Rachida, qui est un producteur hors pair, qui a notamment été guitariste de Robert Plant, enfin voilà, qui a produit le dernier album de Swan Massey, qui est victoire de la musique du jazz. Voilà, c'est un très beau plateau qu'on va accueillir pour clôturer la soirée, le Festival des Tours du Monde.
Super soirée en perspective, magnifique. Toi, c'est quoi la date que tu attends le plus pendant tout le festival?
Ah ben moi, j'attends peux pas choisir, toutes les ouais. dates, je ne peux pas choisir. Heureusement, d'ailleurs. Mais moi, c'est l'édition que j'attends de manière générale. Nous, on a hâte. On est très heureux d'organiser cette nouvelle édition, d'en profiter pour se retrouver tous, pour faire la fête. Pour découvrir des artistes, voilà, comme on dit dans l'édito aussi, et depuis deux ans maintenant, bah, bienvenue chez vous partout à des tours du monde en fait.
Voilà. Merci beaucoup Fabien Moutet. Et alors qu'est-ce que tu nous proposes d'écouter pour clore notre entretien, pour nous mettre dans l'ambiance de Musique du Monde, un morceau d'un artiste qui va jouer?
Las Panteras.
Ouais.
Hasta cuando.
Hasta cuando, Las Panteras, tout de suite sur Radio Barthes.
Wow. Hasta cuando. Hasta cuando. ¿Hasta cuándo? Si somos las mujeres que tenemos el mando. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Si somos las mujeres que tenemos el mando. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Si somos las mujeres que tenemos el mando.
Yo no quiero un hombre que me tenga amarrado y sin consuelo y con veneno.
Repite y continúa hasta la actualidad. No puedo más, no aguanto más. Espero mis hermanas se revelen ya. Que la palabra hombre para Dios no significa abusar de la feminidad.
¿Hasta cuándo?
Ay, ay, ay.
¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo?
Repítelo conmigo.
Si somos las mujeres que tenemos el mando. ¿Hasta cuándo?
¿Hasta cuándo,
baby? ¿Hasta cuándo?
H-Pan-C.
¿Hasta cuándo? Si somos las mujeres que tenemos.
Sister, listen to me.
Llámalo, 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 llámalo.
Sister, listen to me. pienso discutirlo con
sister, sister, listen to me.
C'était Las Panteras à l'instant sur Radio Bartas, duo afro-cubain qui seront sur la scène de Chanak pour le festival des Tours du Monde, samedi 18 juillet.
Midi et des poussières.
Midi et des poussières, un rendez-vous presque quotidien sur Radio Bartas.
Et oui, il est toujours midi et des poussières sur Radio Bartas, l'heure maintenant de se préparer à l'ascension du Mont Lozère, où se tiendra ce dimanche la grande fête de la transhumance. 2500 brebis arriveront par la draille, cloche tintante, traversant la station de ski du Blémard-Mont Lozère, direction les estives du sommet du Finiel, où elles resteront jusqu'à fin août. Et autour d'elles, toute la journée, plein d'activités festives pour se retrouver et célébrer cette pratique millénaire en Lozère qu'est la transhumance. Je vous propose d'écouter Thierry Ferrier, président de l'association Transhumance sur le Mont Lozère, qui organise la fête depuis 2015. Il nous déroule le programme de la journée du dimanche 21 juin.
Eh bien, le matin, à 4h30, on se retrouve au col Finiel pour faire le lever du soleil, avec une petite randonnée avant. Après, on fait un petit déjeuner pour ceux qui ont fait la randonnée, un petit déjeuner à l'ancienne, donc c'est omelette au cèpe, charcuterie, gâteau à la châtaigne. Ça, c'est que pour ceux qui ont randonné. Et après, on fait l'ouverture du marché à 9h. À 10h30, il y a l'arrivée des troupeaux. Après, il y a la célébration acuménique. Après, on fait de l'extraction de miel. À 11h30, la danse folklorique. Après, à 12h, restauration sur place avec l'aligot et agneau. Puis à 13h30, de nouveau, danse folklorique. Après, démonstration de tonte à l'ancienne. Concert, après, à 15h. À 16h30, il y a le tirage à la tombola et une démonstration de vannerie dans la journée, des jeux en bois, déjà il y a un peu.
Il y a un peu, c'est clair, il y a beaucoup même. Et il y a déjà eu beaucoup, car deux journées festives pour célébrer la transhumance des brebis ont déjà été organisées sur le territoire Causses-Cévennes, aux Aires à côté de Saint-Hilaire-de-la-Vite, le 7 juin, et à l'Espérou, sur les pentes du Mont-Aigoual, c'était les 14 et 15 juin. Julie Hébrard, de l'entente interdépartementale Causses-Cévennes, qui est la structure gestionnaire du bien UNESCO, nous explique pourquoi ces fêtes sont importantes, pourquoi il est nécessaire de protéger et de visibiliser la pratique de la transhumance.
La transhumance, donc dans le bien UNESCO Causses-Cévennes, c'est un des attributs du bien UNESCO en tant que pratique de l'agropastoralisme. Donc le bien UNESCO Causses-Cévennes a été inscrit sur la liste du patrimoine mondial pour l'agropastoralisme méditerranéen. Et la transhumance, c'est un attribut, donc en fait c'est une pratique, un exemple de pastoralisme, de pratique de l'agropastoralisme. Et du coup, pour nous, c'est très très important. C'est, comme je le disais, c'est une pratique millénaire sur ce territoire qui a vraiment structuré aussi la façon dont on se déplace sur le territoire. Donc, par exemple, les troupeaux se déplacent sur des drails, qui sont les chemins de transhumance. Et ces drails, historiquement, c'était aussi des chemins de commerce, des chemins de pèlerinage. Donc, sur ce territoire Causses-Cévennes, il y a vraiment l'empreinte de la transhumance dans le paysage également. Et ensuite, ça permet de maintenir des exploitations donc, qui ont besoin d'aller chercher de la ressource plus en altitude, puisque sinon, la ressource en bas, soit dans les garrigues ou voilà, dans les exploitations qui sont plus en plaine, qui n'ont pas la ressource nécessaire pour l'été où il y a trop de chaleur. Et donc, du coup, voilà, de monter en altitude pour aller chercher la ressource, donc c'est vraiment essentiel pour le maintien de certaines exploitations aussi.
Et c'est aussi une manière de rendre visible cette pratique pour montrer un peu au grand public que ça existe, que ça concerne beaucoup de monde, beaucoup de brebis. Là, sur le Mont Lozère, il y a, je crois, 2500 brebis qui vont monter. Donc, c'est aussi important, cette visibilité de la pratique.
Oui, complètement. Et effectivement, aussi, cet effet de communion, en fait, entre un grand public parfois averti, parce qu'il y a vraiment des gens qui reviennent tous les ans à ce genre de fête et qui sont un peu habitués, et des gens plus ou moins non avertis qui viennent juste voir le troupeau parce que c'est vraiment des belles images aussi de voir cette rivière de brebis. Et c'est l'occasion pour nous, en tant qu'organisme ou les éleveurs, effectivement aussi, de parler de ces pratiques, de parler de l'importance de la transhumance, pourquoi ils ont ça dans leur système et pourquoi c'est important de le maintenir sur les territoires. Et voilà, de valoriser cette pratique.
Et aussi d'aborder les différents enjeux, en tout cas qui pèsent sur la pratique aujourd'hui. Et on pense par exemple à la prédation, c'est toujours un enjeu. Ça va aussi ressortir, ça ressort aussi pendant ces fêtes-là.
Totalement, ces fêtes-là, elles sont aussi faites pour avoir des temps un peu de plaidoyer ou de tribune, en tout cas, pour exposer les enjeux et pas juste fêter l'événement. Donc c'est aussi un moment important, voilà, pour dire les enjeux autour de la transhumance. Là, cette année, justement, il y a un concert qui va être organisé par un groupe qui s'appelle La Chapelle Harmonique, qui va jouer tout un répertoire de musique dite pastorale, des chants de berger, voilà, avec les sonailles, etc. Et à l'issue de ce concert, il y aura un petit temps d'échange avec des témoignages, justement, pour parler plus largement des enjeux du pastoralisme et donc en lien avec la transhumance. Et voilà, ça permet effectivement de visibiliser ces enjeux, la prédation bien évidemment qui impacte les systèmes pastoraux et notamment les systèmes pastoraux transhumants également, et le changement climatique, parce que la transhumance, c'est voilà, pour aller chercher les ressources, et c'est vrai que dans un contexte où les ressources se raréfient autant en eau qu'en herbe, voilà, pour les troupeaux ça pose des gros problèmes.
Il y a plein de partenaires qui seront présents à cette fête, aussi bien la Chambre d'agriculture que le Parc national des Cévennes. Vous, bien sûr, l'Entente Côte-Cévennes. Il y aura aussi la station 4 saisons du Mont-Lozère. Tout le monde se réunit, même si chaque partenaire peut avoir parfois des positions différentes ou en tout cas des combats un peu différents autour de la transhumance.
Oui, c'est vrai, et c'est justement l'objectif de cette fête, de réunir du grand public et aussi toutes les personnes qui travaillent tout au long de l'année sur le pastoralisme, sur la transhumance. Et voilà, on fait en sorte de tous s'entendre et on a tous le même objectif, en fait, de valoriser cette pratique, de la sécuriser dans le temps, de faire qu'elle perdure. Voilà, il y a beaucoup moins de transhumants qu'avant, mais c'est quand même une pratique toujours vivante et toujours pratiquée dans les Côtes-Cévennes, et ça, c'est important de le mesurer aujourd'hui.
Et donc, tu évoquais le concert de la Chapelle Harmonique. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette formation musicale ?
Oui, alors la Chapelle Harmonique, donc c'est un ensemble de musique classique. Donc il y aura 6 musiciens qui seront présents, dont une flûtiste, une harpiste, un gambiste, voilà. Et donc pour jouer un concert spécialement créé pour l'année internationale du pastoralisme qui s'appelle Le Souffle du Berger et qui reprend tout un tas de musique issue de la tradition populaire et des chants de berger, voilà, avec différentes langues aussi. Il y aura des chants en occitan ou voilà, des choses comme ça, et on est très content de faire partie de cette tournée. Ils font une tournée en France là, et on a cette date qui tombe le jour de la fête de la musique, donc c'est aussi un joli symbole, et dans la chapelle du Mont-Lozère, donc voilà, un très beau concert.
Thank you.
La composition Le Souffle du Berger du groupe La Chapelle Harmonique n'est pas encore disponible à l'écoute en ligne, alors je vous ai mis à la place l'aria de la pastorale en ut mineur de Bach, interprétée par Alexandre Tarot. Merci beaucoup à Julie Hébrard, et donc pour les plus motivés, rendez-vous à 4h30 du matin au col de Finiel pour monter avec les brebis. Je ne sais pas vous, mais moi, personnellement, j'y serai. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Et pour votre écoute ces derniers mois, Midi et des Poussières fait une pause estivale. Je reviendrai en septembre-octobre avec ce format d'émission. Mais pour l'été, je vais proposer une autre formule, une émission hebdomadaire, genre le Mac de l'été, un midi à la rivière par exemple. Ce sera le jeudi et ce sera toujours dédié à tout ce qui se passe par ici, mais voilà, condensé en une fois par semaine. Je vous en dirai plus très bientôt, d'ici trois petites semaines. Et je ne vous dis pas vraiment au revoir, je vous dis à tout à l'heure pour le tout premier épisode de la toute nouvelle émission Sex and Love de Radio Bartas, Montée de Sève, une émission pour parler librement d'amour et de sexualité, car c'est l'été. Je serai en compagnie de Solène, aka Solène Lahaye, et de tout plein de craquantes chroniqueuses, alors soyez à l'écoute pour ce nouveau rendez-vous à partir de 20h sur le 107. Salut!
Sait-on ce qui se cache derrière cette petite phrase que nous prononçons de nombreuses fois dans une journée ? Quelle heure est-il ?
Au quatrième top, il sera exactement...
Midi et des poussières. Midi et des poussières.
Un rendez-vous presque quotidien sur Radio Bartas.
Des invités, des reportages, des chroniques, de la musique. Une heure d'émission pour raconter ce qu'il se passe ici et un peu plus loin.
Midi et des poussières.
En réalité, pour être tout à fait précis, actuellement, c'est le temps atomique, moins 10 secondes, plus une heure.